France Inter, il est 8h. Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, cette question: à quand la campagne des élections européennes? C'est quand même pour le mois de mai et elle n'a toujours pas commencé. D'ailleurs, le parti qui devrait donner l'impulsion, celui d'Emmanuel Macron, est loin d'être en marche pour ces élections. Un week-end d'invectives dans le sillage des Gilets jaunes, insulté en raison de sa religion, Alain Finkielkraut, samedi, insulté en raison de sa compromission présumée et en dessous de la ceinture Ingrid Levavasseur dimanche. Dans 20 minutes, qu'a-t-il à dire de la violence du climat? Question posée
à l'ancien député européen Daniel Cohn-Bendit. Il est dans le grand entretien de la matinale dans une vingtaine de minutes. Appelez-nous 01 45 24 7000.
À la une également, coke en stock, de la drogue plein les soutes. L'affaire Air Cocaïne arrive aujourd'hui au tribunal. Israël qui gèle les allocations versées aux familles de prisonniers palestiniens. Une baisse de 10% des inscriptions des étudiants étrangers dans les universités françaises, conséquence de la hausse des tarifs. Du soleil pour les vacances, ça va continuer, joie, bonheur pour ceux qui sont en montagne notamment. Et puis Bergman au théâtre, très réussi, Fanny et Alexandre à la Comédie Française.
France Inter.
Tiens, ça nous avait presque échappé, il n'y aurait pas des élections dans 3 mois, élections européennes, mais oui, où les citoyens choisissent qui va les représenter au Parlement, passé à l'as jusqu'à présent avec le mouvement des Gilets jaunes et le grand débat national, ce qui n'est probablement pas plus mal pour La République En Marche. Karine Bécart, le parti du président, qui appelle pourtant à refonder l'Europe, est vraiment très en retard.
C'est une campagne qui patine. Pour l'instant, par exemple, il n'y a toujours pas eu le moindre accord passé entre le partenaire Modem et la majorité. Première réunion annoncée demain soir, mais rien ne dit que tout sera calé en une seule soirée. De même, le parti présidentiel espérait s'allier au mouvement Agir les constructifs avant la mi-février, sauf que les premières discussions entre eux n'ont même pas commencé. Ensuite, deuxième difficulté, la question des soutiens. Certes, l'ancien socialiste Pierre Moscovici a promis d'aider dans cette campagne, mais c'est surtout Alain Juppé qui avait été imaginé comme une des personnalités qui allait animer les débats pour ces européennes. Le problème, c'est qu'il a accepté et préféré aller au Conseil constitutionnel. Et puis, comme tout est décidément compliqué, aucune tête de liste n'est encore affichée. Après les ministres Brune Poirson et Nathalie Loiseau, c'est le nom d'Édouard Philippe qui recommence à animer les coulisses. Mais officiellement, le directeur de la campagne n'est pas inquiet puisque les européennes, dit-il, se jouent toujours les 2 dernières semaines.
Karine Bécart, elle, était tête d'une liste de gilets jaunes aux européennes. Ingrid Levavasseur et son rassemblement d'initiatives citoyennes, le RIC, qui a explosé en vol moins d'un mois après avoir été lancé. Et hier, pour la manifestation marquant les 3 mois de la contestation, son ancienne tête de liste a été prise à partie et copieusement insultée. Benjamin Mathieu.
Ingrid Levavasseur répond aux journalistes en fin de matinée sur les Champs-Élysées quand un gilet jaune tente d'arracher mon micro.
Vous trouvez ça normal, ce genre de comportement?
Monsieur.
Non, c'est désagréable.
Sous la pression, l'éphémère candidate d'une liste gilet jaune aux européennes doit interrompre l'entretien qui reprend un peu plus tard.
Et j'ai fait une erreur, mais c'est pas grave. On n'est pas encore assez dans la maturité.
Mieux vaut tard que jamais. Voilà.
L'aide-soignante normande abandonne en tout cas la politique.
De toute façon, moi je pense que je vais retourner à mon boulot et passer mon concours d'infirmière et aller plus loin. Voilà.
Très bien.
Les gilets jaunes en fait refusent d'être incarnés politiquement. Bruno, un chef d'entreprise du Val-de-Marne.
Pour moi, c'est de la politique. Qu'elle reste dans son coin, qu'elle aille faire la politique aux européennes, mais qu'elle ne vienne pas manifester en tant que gilet jaune.
Ça veut dire que pour vous, les gilets jaunes ne doivent pas avoir de liste, par exemple, aux élections européennes, ne doivent pas être politisés.
On n'a pas à être politisé. Celui qui veut faire une liste, il n'a pas à représenter les gilets jaunes.
À la fin de la manifestation, au pied de la Tour Eiffel, Ingrid Levavasseur est de nouveau invectivée et cette fois insultée, donnant une image déplorable du mouvement pour ce défilé anniversaire.
Voilà, injures sexistes, les pires, on ne les a pas entendues, essuyées par Ingrid Levavasseur, insulte antisémite contre Alain Finkielkraut. Un fourgon de police attaqué à Lyon, le mouvement des des Gilets jaunes s'est radicalisé, dit la ministre Agnès Buzyn. Il doit s'arrêter. Hier à droite, c'était Éric Ciotti sur France Inter qui considérait qu'il fallait dorénavant interdire les manifestations.
Il est 8h05, loin de la chasteté érigée en dogme.
Loin des principes du droit et de la morale. La pédophilie dans l'église, péché collectif, selon le président des évêques de France. On va en parler toute la semaine avec la sortie du film de François Ozon sur l'affaire Prena mercredi, si la justice ne l'interdit pas aujourd'hui. Et un sommet inédit au Vatican, jeudi, toute la hiérarchie de l'église convoquée. Impossible désormais donc pour les catholiques d'éluder la question, Farida Noir.
La hiérarchie n'est pas la seule coupable. Des parents très chrétiens ont empêché leurs enfants de parler, explique Monseigneur Georges Pontier, le patron des évêques de France, au journal du dimanche. Jacques Fervent, croyant, venu écouter un concert dominical dans l'église Saint-Ambroise de Paris, ne le contredit pas.
Si j'avais eu ce genre de problème dans ma famille, j'aurais demandé peut-être de la discrétion. Tout n'est pas si fondamental, c'est-à-dire on entend parler d'affaires où il y a eu simplement des embrassades, des caresses, je veux dire, voilà, des choses qui ne sont pas vraiment du viol à proprement parler. Donc bon, il pousse un peu.
Pour Vanessa, l'église reste la principale fautive.
Il y a sûrement des parents. Pour ne pas faire des vagues, ils se sont tués. Mais cela n'empêche pas que l'église a fait beaucoup de mal à des milliers d'enfants. Moi, je peux dire que mon père a été abusé pendant son enfance par un prêtre qui était au Congo. Il a abîmé mon père. Et puis mon père a abusé de moi. J'avais 8 ans.
Car une victime peut devenir à son tour un agresseur. Pour Daniel, il n'y a pas de péché collectif. L'Église doit tout assumer.
C'est l'Église qui est responsable de ce qui s'est passé. Je pense qu'il faut punir ces gens-là, mais peut-être aussi en les accompagnant pour éviter qu'ils recommencent. Et après, on verra.
À la justice maintenant de faire son travail, ajoute-t-il.
Reportage signé Farida Noir. Des valises de cocaïne retrouvées dans un avion privé sur l'aéroport de Punta Cana, République dominicaine. L'appareil doit rallier Saint-Tropez. Les pilotes sont français, deux des passagers aussi. C'était en 2013, affaire nommée Air Cocaïne, aux multiples rebondissements. Elle sera jugée à partir d'aujourd'hui et pour 6 semaines devant la cour d'assises spéciale d'Aix-en-Provence. 9 accusés à la barre et leurs avocats qui démoliront la procédure dominicaine, comme Julien Pinelli, en défense de l'un des Français accusés.
Certaines pratiques en République dominicaine ne sont pas des pratiques qui sont admises, et Dieu merci, en France. De très nombreux procès-verbaux sont le fait de personnes présentées par les autorités dominicaines sous l'appellation « agents infiltrés », mais en réalité, il s'agit d'indicateurs payés pour leur mission. Ce sont des personnes qui, déjà, par définition, ont partie liée de façon habituelle avec le narcotrafic. Et ce sont des personnes qui sont employées, mais au sens véritablement économique du terme, pour venir servir l'accusation au cours de la procédure, puis au cours du procès. Et nous avons dans le dossier dominicain les notes de frais afférentes à chacune de leurs interventions. Quitte à intégrer au dossier français ces éléments, il était surtout possible de les accompagner des plus grandes réserves. Ces procès-verbaux ont été pris au pied de la lettre.
Maître Julien Pinelli, avec Christophe Richer, ce procès sans jury populaire, mais avec des magistrats professionnels seulement pour juger d'un trafic international, va durer jusqu'au 5 avril. Lui ne prendra pas l'avion pour Tel Aviv. Le Premier ministre polonais renonce à participer au sommet du groupe de Visegrad à Jérusalem, aux côtés de la Hongrie, de la Slovaquie et de la République tchèque. La Pologne n'a pas supporté que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, mentionne la collaboration du pays avec les nazis pour exterminer les Juifs d'Europe. Israël qui a décidé de taper les Palestiniens au portefeuille, plus précisément les prisonniers palestiniens et leurs familles. Jérusalem, qui collecte des taxes pour l'autorité palestinienne, a décidé d'en geler 120 millions d'euros, ce qui correspond aux allocations versées aux familles de prisonniers. Sujet extrêmement sensible sur place. Reportage dans le camp de réfugiés d'Al-Amari, près de Ramallah, Marine Vlaovic.
Planté sur le seuil de sa maison délabrée au cœur d'Al-Amari, Raled Abou Rouis montre des photos de ses deux fils arrêtés par l'armée israélienne au cours d'affrontements. Pour chacun d'entre eux, cet ouvrier reçoit un peu moins de 350 euros par mois.
Bien sûr que j'ai besoin de cet argent. J'en envoie une partie à mes enfants en prison et le reste me permet de vivre. Depuis qu'ils ont été arrêtés, je n'ai plus de permis pour travailler en Israël. Comment je ferais sans cet argent ?
Héros de la lutte contre l'occupation pour les Palestiniens, terroristes pour les Israéliens, les portraits de prisonniers ornent les ruelles de ce camp de réfugiés, un symbole de leur popularité dans les territoires occupés. Au total, près de 11 000 familles de détenus et d'ex-détenus touchent ces allocations, selon Kadoura Fares, le président du club des prisonniers palestiniens.
It's our money, first of all. C'est avant tout notre argent, c'est de l'argent palestinien et ce n'est pas un cadeau. Nous soutenons ainsi des familles entières qui n'ont pas d'autres sources de revenus et notre peuple a le droit de se battre pour sa liberté selon le droit international.
L'autorité palestinienne qui dénonce un acte de piratage de la part d'Israël s'est engagée à poursuivre le versement de ses allocations. Ramallah, Marine Vlaovic, RFI pour France Inter.
La Nouvelle-Calédonie en alerte cyclonique ce matin, alerte de niveau 7 maximale dans l'extrême nord du territoire. On attend des vents à 170 km/h et des creux de 5 mètres provoqués par la dépression tropicale Oma.
Il est 8h10, Florence, 2 800 € pour une licence, 3 800 € pour un master.
Voilà le tarif pour les étudiants étrangers l'an prochain. Nouveaux frais d'inscription qui n'en finissent pas de choquer dans les facs pour une licence. Jusque-là, c'était 170 € seulement. Alors de plus en plus de présidents d'universités se rebiffent et refusent d'appliquer les nouveaux tarifs, Sonia Princey.
Au dernier comptage, 17 universités sur 72 au total ont fait savoir qu'elles n'augmenteraient pas les frais d'inscription à la rentrée prochaine pour les étudiants hors Union européenne. Elles peuvent en effet exonérer de frais certains étudiants dans la limite de 10% du nombre d'inscrits. Les présidents d'université craignent une baisse de leurs effectifs et c'est ce qui se profile. L'agence Campus France, l'organisme qui recense les préinscriptions venant de l'étranger, a déjà enregistré début février une baisse moyenne de 10% du nombre d'étudiants hors Union européenne qui souhaitent entrer en licence l'année prochaine. Les plus fortes baisses concernent l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Mais pour l'instant, le gouvernement campe sur ses positions. La concertation lancée en janvier, dont le rapport sera remis ce matin, vise uniquement à améliorer les conditions d'accueil de ces étudiants étrangers avec plusieurs axes. Multiplier par 3 le nombre de bourses et augmenter les exonérations de frais. Simplifier la délivrance des visas. Faciliter l'accès à un logement. Mais le principe et le calendrier de l'augmentation des frais d'inscription n'est pas remis en cause. Or, c'est justement le point de litige. Et la contestation va forcément continuer.
Dessine-moi un uniforme pour tous les jeunes de 16 ans qui passeront par le service national universel. C'est un concours lancé auprès des ados de 13 lycées professionnels et technologiques. Aujourd'hui, avec 3 obligados, il faudra que l'uniforme comporte les couleurs du drapeau, les symboles républicains et l'année de promotion.
À Blanquefort, près de Bordeaux, les jours passent, Florence, et la reprise de l'usine Ford semble s'éloigner.
Le seul candidat intéressé sur le point, figurez-vous, de jeter l'éponge. Les 850 salariés et les élus locaux n'ont donc plus que l'État comme dernier espoir. Grégoire Lecalot, ils ont rendez-vous cet après-midi avec Bruno Le Maire à Bercy.
C'est un espoir assez ténu, hein, même si l'entourage de Bruno Le Maire affirme, je cite, vouloir se battre jusqu'au bout et qu'il y aura des avancées sans rentrer dans les détails. Les discussions avec Ford et le candidat à la reprise, le groupe franco-belge Punch, se poursuivent, affirme le ministère, qui préfère tout de même prévenir, pas de miracle à attendre. Cette réunion ne sera pas conclusive. Tout l'enjeu, c'est de trouver des clients à Punch pour qu'il puisse mettre en œuvre son offre de reprise qui sauverait 400 emplois sur 850. Au début du mois, ses dirigeants ont expliqué à l'intersyndicale de Ford qu'ils n'en trouvaient pas, qu'ils étaient confrontés au ralentissement du marché de l'automobile. C'est pas évident pour eux, confirme Bercy, qui évoque d'autres solutions comme une réindustrialisation du site.
À fond la forme, mais moins qu'avant, chez Decathlon, les ventes ont chuté de 5% l'an dernier en France. La nouvelle stratégie du premier vendeur de vêtements de l'Hexagone semble avoir déboussolé ses acheteurs, qui n'y retrouvent quasiment plus que des marques Decathlon, de plus en plus nombreuses et de plus en plus pointues, selon les analystes. En revanche, ça marche à l'étranger avec des ventes en hausse de 5%. Mais quel bonheur, Nicolas, oui. Que ce soleil de février sur nos organismes en manque de vitamine D, l'hiver, week-end splendide qui a clos une semaine de rêve pour les vacanciers de la zone B, celle qui s'annoncera tout aussi belle pour ceux de la zone A qui arrivent. Et pour ceux qui ont la chance d'être en montagne, à Portet-Puy-Morins, par exemple, dans les Pyrénées, y a pas d'autre mot, c'est le pied, Sébastien Berriot.
Plus de 3000 skieurs ce dimanche sur les pistes de Portet-Puy-Morins, c'est un gros chiffre pour la petite station des Pyrénées. L'année catalane, le soleil attire les vacanciers, mais surtout les quantités de neige tombées début février. 1 mètre en bas de la station, 2 mètres en haut. Thierry a traversé la France pour venir à Portet et il est ravi.
On est de Saint-Malo, fait un temps magnifique, extraordinaire, et donc c'est un vrai plaisir. On avait un petit peu peur qu'il y ait du monde, mais en fait, en venant dans cette station, on s'aperçoit que c'est skiable, sans trop d'attente, et puis il y a une super neige.
Christine Bordelaise.
J'accompagne mes enfants, mes petits-enfants. La neige est merveilleuse. J'ai comparé avec d'autres stations plus prestigieuses. Et franchement, on est beaucoup mieux ici. Mais il ne faut pas trop le dire, parce que sinon, il y aura trop de monde.
Éric Char, le directeur de la station, a le sourire.
Au niveau fréquentation, là, on compense un début de saison difficile. Il y a beaucoup de monde, 6 jours de vacances, 6 jours de soleil. Donc là, on a vraiment une fréquentation qui est constante, continue, et ça se passe admirablement bien. Oui.
Même sentiment pour Esther à l'accueil de l'école de ski.
On bosse bien et on est content. Il y a beaucoup de clubs qui viennent ici à skier le week-end, des jeunes, des familles, on a un peu de tout.
La quasi-totalité du domaine de Portée est ouvert pour ses vacances de février.
Une 25e et belle journée de Ligue 1 pour le PSG. Kylian Mbappé, auteur du but de la victoire pour les Parisiens 1-0 à Saint-Etienne. Un but venu d'ailleurs d'un joueur de 20 ans qui sera bientôt le meilleur joueur du monde, dit l'entraîneur de Saint-Etienne. Lille, à la 2e place du classement, n'a fait que match nul face à Montpellier.
Enfin, quand la Comédie française s'attaque à un monument signé Bergman.
Ingmar Bergman, Nicolas, Fanny et Alexandre, plus de 5 heures sur la pellicule, mais seulement 2h45 au théâtre. Une épopée familiale formidablement mise en scène par Julie Deliquet. Coup de cœur de Stéphane Capron.
Fanny et Alexandre est en grande partie autobiographique. Fils de pasteur luthérien, Bergman a eu une enfance à la fois joyeuse et austère. La pièce raconte l'histoire de deux enfants grandissant dans une famille de comédiens. À la mort du père, leur destin bascule dans un cauchemar. La mère se remarie avec un tyran. Connu pour ses chefs-d'œuvre au cinéma, Bergman était aussi en Suède un grand metteur en scène de théâtre. Ses deux passions sont au cœur du spectacle de Julie Deliquet.
C'est un texte qui parle tellement de théâtre qu'évidemment que ces thèmes-là résonnent quand on les voit au cinéma et quand on les lit dans son roman. Mais quand on les interprète au théâtre, ils résonnent aussi complètement différemment. J'ai ramené des auteurs, j'ai ramené Ibsen, j'ai ramené Strindberg, j'ai ramené Molière. On a vraiment aussi plongé dans les carrières des acteurs. C'est une troupe ici. Ça nous demandait une réflexion, une profondeur, une expérience et de rentrer dans les carrières des uns et des autres.
La mise en scène est brillante. On se délecte des références à l'histoire du théâtre. Julie Deliquet a choisi les Benjamins de la troupe pour interpréter Fanny et Alexandre, Jean Chevalier et Rebecca Marder. Ils sont entourés des stars, Denis Podalydès, Dominique Blanc, Laurent Stocker, une distribution de 20 comédiens pour une mise en scène qui va marquer l'histoire de la Comédie française.
Fanny et Alexandre en alternance à la Comédie française jusqu'au 16 juin, Nicolas.
Merci Florence Paracuelos.